Là où pour moi la bière allemande commence son histoire, c'est aux alentours du 12e, 13e et 14e siècle, même si bien avant la bière existait déjà en Allemagne. On peut remonter si on veut au plus loin, aux années 600 avant Jésus-Christ, où on avait découvert des amphores, donc c'était des vases en fait en terre cuite, où on stockait la bière pour la faire fermenter. On peut remonter aussi à l'Empire romain, où l'Empire romain a permis de mettre sur la scène européenne le vin et la bière, et donc forcément pour des raisons climatiques, vu qu'au nord il faisait plus froid, on était plus propice à se développer dans le brassage de la bière. Et puis aussi on peut remonter à l'empereur Charlemagne, le roi des Francs, qui dans cette volonté d'union catholique a fait construire beaucoup d'églises et beaucoup de monastères, et donc qui dit monastère dit brassage de la bière. Mais c'est vraiment aux alentours du 12e, 13e siècle qu'on voit un essor dans les bières allemandes. Alors avant cette période, par exemple au début du Moyen-Âge, les bières, c'était pas une boisson qu'on buvait un peu comme aujourd'hui, hein, où on est entre copains et on veut un peu chiller, on est bien, on se boit quelques bières. Non. À l'époque, la bière, déjà, elle était brassée en grande majorité par les moines. Et les moines, eux, pour eux, la bière, c'était une boisson d'accueil avant tout, d'accueil pour les pèlerins, pour les voyageurs, mais c'était aussi une boisson de complément alimentaire. En fait, la bière était vue comme un aliment à part entière, et donc c'est pas pour rien qu'on l'appelle le pain liquide. À l'époque, la diète était quand même assez restreinte, hein. On mangeait du pain, des épices, de l'huile et du poisson séché. On buvait la bière pour justement complémenter en fait notre assiette. Certains vont pas y croire, mais c'est vrai, la bière contient des vitamines, contient certains minéraux, et donc forcément ça permet un peu aux moines de se maintenir en forme. Alors il y a certaines sources historiques qui disent que les moines buvaient 3 à 4 litres de bière par jour. Bon, je sais pas si à ce stade-là c'était vu comme un complément alimentaire ou pas, mais en tout cas, voilà, la bière, ça avait cette fonction-là. Et au niveau du goût, on ne sait pas vraiment, mais on tend à penser qu'elle était déjà moins forte en alcool, et surtout un peu plus acide, un peu plus aigre, parce que on n'avait pas encore les conditions de conservation qu'on a aujourd'hui, et donc la bière était plus propice à se faire contaminer par des bactéries. C'est vraiment à partir du 12e, 13e siècle qu'on commence à vouloir commercialiser la bière parce que tout simplement, en fait, les villes commencent à se développer petit à petit. Hein, on a de plus en plus d'argent, les villes s'agrandissent, il y a de plus en plus d'étrangers qui passent, donc on construit des hôtels, on construit des auberges, et donc forcément, qui dit auberge dit demande. Et donc petit à petit, on voit des nobles acheter auprès du royaume des droits de brassage pour justement pouvoir brasser. Les moines perdent petit à petit leur monopole de brasse et l'État commence petit à petit à mettre un contrôle, à exercer un contrôle sur le brassage de la bière. Et donc c'est notamment dans une région que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Bavière, mais qui à l'époque s'appelait également le royaume de Bavière, c'est dans ce royaume-là en fait que va se développer la grande majorité des bières allemandes. C'est à concentrer en fait cette région historique sur le territoire allemand par rapport à la bière. Déjà, premier grand changement dans cette région durant cette période de temps, ça va être la découverte des travaux sur l'houblon des études qu'a fait Hildegard de Bingen. Donc Hildegard de Bingen, elle a mis en lumière le fait que utiliser l'houblon comme épice principale dans la bière, ça permet de mieux conserver celle-ci et donc qu'elle soit plus renforcée aux contaminations bactériennes qu'on pouvait retrouver à l'époque. Le fait d'utiliser l'houblon dans la bière, ça va être une véritable révolution. C'est la Bavière qui commence vraiment à se développer dans l'utilisation du houblon dans la bière. Deuxième grand changement, on est du coup, comme je le disais avant, dans un contexte où les villes se développent. Le commerce également se développe. On voit aussi l'apparition du Nouveau Monde, hein, les États-Unis qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, forcément, le commerce de la bière également se développe. Mais on est dans une période où il n'y a rien qui dit c'est quoi une bière, qu'est-ce qui mentionne que la bière c'est telle ou telle chose, et on n'a pas de loi là-dessus. On connaît les Allemands sur leur côté un peu rigide, mais ça n'a pas échappé également à cette époque. Ça va être l'empereur Frédéric Barberousse qui va décider d'édifier la première règle sur la bière en décidant de punir chaque brasseur qui brassait une bière de mauvaise qualité. Donc on le taxait en fonction du litre de bière qui était mal brassé. Mais il y avait aussi d'autres légendes qui racontaient qu'en fait, ils noyaient les brasseurs dans leur propre brasse s'ils brassaient une bière de mauvaise qualité. C'est un peu rude, mais on est encore au Moyen-Âge après tout. Le fait que Hildegard de Bingen mette en avant l'houblon, forcément, on voit aussi l'apparition de lois sur l'utilisation, l'obligation d'utiliser le houblon dans la bière. Et on arrive jusqu'en 1516 à cette fameuse loi qu'on connaît encore aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on la connaît encore aujourd'hui? Mais tout simplement parce qu'elle est encore en vigueur actuellement et elle en fait l'une des plus vieilles lois au monde. Et donc c'est une fierté hein, allemande d'avoir encore cette loi en vigueur. Et donc qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Ben en fait c'est le duc Guillaume IV de Bavière qui décida en 1516 d'édifier la loi de pureté de la bière. Cette loi, elle dit qu'une bière, ça doit être de l'eau, de l'houblon et de l'orge maltée. On considère que si on met, je sais pas, du blé, si on met du sarrasin, si on met des fruits, des épices, enfin plein de choses autres que ces trois ingrédients, on ne peut pas appeler ça une bière. Son successeur, Albert V, lui, va décider aussi également de mettre une autre loi. Ça va être la loi de brassage, d'autorisation de brasse en fonction des saisons. Et donc, il décida d'autoriser le brassage de la bière seulement du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. À partir du mois d'avril, on commence à rentrer dans les périodes chaudes, estivales. À l'époque, on n'avait pas le matériel et les connaissances pour brasser une bière qui permettait de survivre en fait à ces températures assez élevées. Et en fait, très vite, la bière tournait au vinaigre. Et donc, c'est pour ça que Guillaume V décida de mettre cette loi en place. Le fait qu'on ait ces deux lois en Bavière, ça va vraiment permettre aux Bavarois de commencer petit à petit à avoir un cadre de brassage et avoir au niveau législatif un contrôle quand même assez important. C'est de là qu'on va commencer à observer l'apparition des vrais styles de bière que l'on connaît encore aujourd'hui. En fonction des saisons déjà premièrement, donc par exemple quand il commençait à rentrer dans l'hiver, on avait plus tendance à vouloir brasser des bières foncées, des bières riches en caractère qui vont permettre un peu de combattre le froid de l'hiver. Donc on voit l'apparition des Dunkel avec la Schwarzbier qui veut tout simplement dire bière noire en allemand et la Rotchbier qui est une bière fumée. On a également les Bock et on a aussi la Marzen qui est une bière qui était brassée au mois de mars juste avant l'interdiction de brassage durant les périodes estivales. Et donc, on en brassait en grande quantité, puis on les conditionnait dans des grands barils où on les laissait justement fermenter tout le long de l'été. Et c'est aussi à ce moment-là, sans le savoir, que les Bavarois vont développer un nouveau type de levure, les lagers. Alors concrètement, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était une levure, mais avec ce qu'on connaît aujourd'hui, on peut dire que ils brassaient surtout avec une levure ale. Et vous vous imaginez bien, avec une restriction de brasser durant l'été, les Bavarois trouvaient un petit moyen de pouvoir quand même boire de la bière tout au long de l'année. Donc ce qu'ils faisaient en fait, c'était qu'ils creusaient des cuves souterraines dans des cavernes alpines hein, qui permettaient de maintenir une température assez fraîche. Et donc ils foutaient la bière là-dedans. Et en fait, le fait que la bière fermente dans des températures très basses, au fil des années, ça va développer un certain type de levure qu'on appelle les levures lager. Mais à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Et le mot lager vient tout simplement en fait du mot conditionné stockage, tout simplement. Enfin bref, les Bavarois se développent petit à petit hein, au niveau de la qualité de leur bière. On boit les bières que on citait juste auparavant. Et on arrive au 19e siècle. On est au siècle des inventions. On invente le train à vapeur qui va permettre de faciliter le transport de la bière. On invente le système de réfrigération, vous l'aurez compris, qui permet de maintenir au frais et donc forcément la bière est de meilleure qualité. Et surtout, on a Louis Pasteur qui amène ses travaux sur la fermentation alcoolique et découvre la levure. Au même moment, on a le Bavarois Joseph Grohl qui décide de partir en République tchèque pour développer une recette qui va révolutionner et bouleverser le monde entier, qui va être la Pilsner tchèque. Et donc, forcément, les gens veulent se l'arracher, ils ne veulent plus boire de la ale, de la bock, de la dunkel. Les gens veulent maintenant boire de la Pils tchèque. Et donc, forcément, les Allemands, les Bavarois à l'époque, décident de vouloir contrer cette hype. Donc, ils mettent en place une recette qu'on va appeler aujourd'hui la Munich LS, qui à la base était pour contrer la popularité des pils tchèques, mais on a aussi l'apparition des pils germaniques. Durant cette même période de temps aussi, l'Allemagne, que l'on connaît aujourd'hui, décide de s'unifier. Et donc le royaume de Bavière rejoint le territoire allemand à une condition qu'on respecte cette loi de pureté de la bière. Cette loi s'étend à l'ensemble du territoire allemand qui avant était seulement sur le royaume de Bavière et on arrive à une extension folle de la production des bières allemandes à tel point que fin 19e, début 20e siècle, l'Allemagne est le plus grand producteur de bière au monde. La suite, on la connaît tous. Première guerre, deuxième guerre mondiale, l'économie allemande fait juste chuter, rehausser, et donc forcément la bière aussi également, enfin le commerce de la bière également aussi. On voit des brasseries qui sont détruites en masse, mais pourtant ça n'a pas empêché l'Allemagne à continuer de produire de la bière, et même encore aujourd'hui, c'est le deuxième pays le plus producteur au monde. La dernière date historique intéressante à remonter dans l'histoire des bières allemandes, ça va être en 93, où l'Union européenne commence à un peu en avoir marre de leur loi de pureté, parce que au niveau du commerce de la bière, c'est hyper compliqué de traiter avec l'Allemagne, parce qu'on ne peut pas ramener des bières étrangères, parce que la plupart des bières étrangères, on peut penser par exemple aux bières belges, elles ne respectent pas la loi de pureté qui est des trois ingrédients, l'eau, l'houblon et le malt, enfin l'orge de malt. Et donc ça met un gros frein au commerce européen de la bière. Donc là, l'Allemagne décide de revisiter leur loi en disant que, ok, on accepte qu'on puisse amener des bières de l'étranger, puis aussi on peut faire une entorse à cette règle, à une condition, c'est que sur le territoire allemand, on n'appelle pas ça de la bière. Enfin bref, c'est sur cette petite note historique qui me fait rire qu'on finit cet épisode. J'espère en tout cas que ça t'a plu, que t'as pu apprendre et puis avoir du fun à écouter cet épisode. Je t'invite soit à direct enchaîner sur le deuxième ou alors tout simplement à prendre une pause et puis à revenir par la suite. En tout cas, je te dis à très vite. Ciao !